Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc aujourd'hui Jean-Louis Borloo.
Bonjour Jean-Louis Borloo.
Oui, bonjour.
Ravi de vous voir dans ce studio d'RTL à Neuilly. Et en effet, bienvenue. Un mot, si vous le voulez bien, d'abord, des violences à Paris hier. Après tout, vous savez comment marche un gouvernement. Vous y avez participé. Toute l'opposition droite-gauche dénonce ce matin au minimum le manque d'anticipation de Gérard Collomb. Je trouvais que c'est une polémique qui, compte tenu de ce qui s'est passé, les questions qu'elle pose, eh bien, est légitime.
Oui, enfin, ça n'a aucun rapport avec le sujet qu'on va traiter, j'espère, en tant cas dans votre esprit. La police a fait son travail, il n'y a pas de blessés, oui. On peut peut-être toujours mieux anticiper, en tous les cas tout ce qui s'est passé est éminemment condamnable.
Oui, rien à voir, sauf qu'il s'agit là d'une radicalité. Est-ce que ça n'est pas aussi le signe d'une rupture, puisque tout votre sujet c'est d'essayer précisément de répondre à un risque de rupture grave dans laquelle sont, encouragés, en tout cas entretenus une partie de la population française. Ça c'est une radicalité aussi, elle ne vient pas des banlieues mais elle existe.
Eh bien je vous remercie de le souligner. Non, ça ne vient pas des banlieues. Bon. Vous savez, quelle est la situation, si vous voulez bien, à la demande de maires qui n'en pouvaient plus dans des quartiers difficiles.
Parce là, que on parle de votre rapport.
Moins de moyens, moyens, beaucoup plus de besoins. Je rappelle qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'ailleurs. Ça continue. On est à près de 4% de croissance dans les collèges pour moins 0,7 pour l'ensemble du territoire national. Et moins de moyens en général. Moins de moyens culturels, moins sportifs, éducatifs,
Attendez,
etc.
Vous tordez le coup d'ailleurs d'entrer à une idée reçue selon laquelle il y a eu trop d'argent dans les quartiers. Vous répondez en décrivant le point d'arrivée. Moins d'emplois, moins d'apprentis, moins de lycéens en filière générale, plus de sécurité, plus de discrimination, deux fois plus d'enfants en sixième qui prennent pas de petit-déj, deux fois plus de risques de décéder avant 75 ans, etc. Tout va plus mal qu'ailleurs, dans les quartiers sur lesquels vous êtes penché pour votre rapport.
C'est pas que tout va plus mal, c'est qu'il y a beaucoup moins de moyens de la République dans ces quartiers. Alors quand on dit les quartiers, ce sont les 1500 quartiers, les 6 millions, mais vous savez, c'est un peu ceux d'à côté. C'est aussi les villes moyennes dans les bassins en très grande crise, une partie des territoires d'outre-mer. En fait,
les zones rurales
délaissées, bien entendu. C'est le même phénomène, en réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans une organisation française qui fait que il y a moins de moyens là où il y a plus de besoins. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, le président de la République m'a demandé...
Et les problèmes se cumulent, c'est cumulatif,
bien sûr,
c'est
absolument cumulatif, ouais. Bien sûr. Il y a deux fois moins de médecins, de gynécologues, de spécialistes, c'est plus compliqué, il y a moins de transports en commun, enfin... Tout est plus compliqué. Voilà, on a, dans les années 60, créé des cités un peu hors sol, qui n'ont pas toutes les fonctions normales d'une ville. Et alors moi, quand j'ai fait ce diagnostic à la demande du président de la République, il m'a dit, écoute Jean-Louis, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en vrai, cette fois-ci, pour que ça change? Voilà, c'est la carte de visite était, ou la conduite était parfaitement claire. Donc j'ai fait diagnostic et j'ai constaté ça, et avec un espèce de décalage extraordinaire avec tout ce que j'entends ou j'entendais par-ci par-là. On a déversé des milliards sur les quartiers, ça n'a rien changé. C'est pas vrai, en 10 ans, il y a 30% de policiers de moins à Montreux ou à Sevran qu'il y a 10 ans, enfin... Tout est comme ça.
D'accord.
L'état du tribunal de Bobigny, il faut quand même aller voir.
Vous dites des millions de personnes. Vous les présentez comme donc celles qui subissent des inégalités.
Les oubliés de la République, oui.
Vous le dites, mais elles cohabitent aussi ces personnes avec des gens qui en profitent. Dans une jolie phrase, enfin jolie si c'était pas si triste, vous écrivez « Les dealers sont de plus en plus visibles, surtout de nuit, quand les femmes... »
Dans certains quartiers, je dis.
« Quand les femmes le sont de moins en moins, surtout le jour. » Vous constatez ce repli communautaire?
Mais tout le monde le constate. Je veux dire, j'ai pas besoin de.
Ça vous effraie, ça veut dire quoi?
Mais ça veut juste dire que, madame, qu'il faut que la République revienne. Et la République, c'est pas une phrase.
Il y a une quinzaine de quartiers qui est en rupture avec la République,
oui,
c'est
ça. Oui, on peut dire qu'il y en a
une
quinzaine. Sur les
1500 quartiers des
favoris. Absolument, il y en a 15 qui sont en rupture, 60 ans, très très grande fracture.
Ouais.
Et le reste. tout est plus compliqué, il y a moins de moyens de ces communes, 30% en moins pour 30% de besoins en plus.
Ça, on a compris, mais juste, parce qu'après on reviendra sur les solutions, mais sur ces 15 quartiers, ceux-là, ce sont les ghettos qui sont livrés complètement à eux-mêmes, ou quoi, puisque vous parlez de ça, de rupture avec le modèle républicain, où l'islamisme est à l'œuvre avec une combinaison d'économie souterraine.
Mais
qu'est-ce que vous faites là, parce que
À chaque fois que la République est en recul ou n'est plus présente sur le terrain, évidemment que ce sont d'autres forces qui prennent la place, que ce soit des forces de la délinquance, de la désespérance ou de la radicalité. C'est une absolue évidence.
Mais là, c'est pas les préconisations de votre rapport qui vont pouvoir régler ça. Mais c'est dans ces 15 quartiers.
Attendez, moi je prétends pas tout régler. On a simplement fait un diagnostic approfondi et ensuite, parce qu'il n'y a pas de plan Borloo, ça n'existe pas. Il y a 19 programmes qui ont été élaborés avec les communes en première ligne, les 800 agglomérations françaises, les partenaires sociaux, on travaille avec la CFDT, avec la CGT, avec FO, les régions, les départements, les entreprises, pour bâtir les 19 programmes qui changeront la donne.
Les 19 chantiers que vous voulez mener tout en même temps. Mais excusez-moi, Jean-Yves Borloo, juste, vous n'avez pas répondu à cette question-là. On va passer à autre chose, mais sur cette question-là, sur ces 15 quartiers, là, ce ne sont pas plus de conseillers de Pôle emploi et plus d'accompagnement des familles. Là, c'est autre chose.
Ah non, mais attendez, il y a des endroits où il faut tout simplement plus de capacités de sécurité publique et de police. Je l'ai dit, je l'explique clairement. Je rappelle, c'est dans ces quartiers qu'on a retiré un certain nombre de moyens.
Il n'y a plus rien.
Je rappelle l'état de la magistrature française qui est embolisée. Si vous voulez mener des actions puissantes, madame, il vous faut un dispositif judiciaire adapté. Nous avons moins de 9000 magistrats en France. 4 fois moins qu'en Allemagne. Je dis bien 4 fois moins qu'en Allemagne. Évidemment que quand vous voulez taper les gangs les plus sérieux, quand vous voulez lutter contre les marchands de sommeil, les copropriétés, il faut des capacités. Et donc moi, je pense que c'est la fin du diagnostic. Il faut réallouer les capacités humaines et financières de notre pays, là où il faut,
le faire. Plus de profs, plus de policiers, plus de conseillers Pôle emploi.
Pourquoi plus, madame ?
Parce que vous le dites dans votre rapport.
Non, excusez-moi, je demande juste qu'il y ait une équité territoriale. Qu'il y ait pour vous,
plus
madame.
Ce qu'il y a aujourd'hui.
Madame, pour qu'il y ait autant que ce dont vous bénéficiez. Voilà. Je demande que partout sur le territoire de la République, il y ait le minimum du minimum. Le minimum en équipement scolaire, le minimum en équipement sportif, le minimum en accompagnement vers l'emploi, le minimum de contrats d'apprentissage. Partout. Je demande qu'il y ait 300 000 contrats d'apprentis. En plus, je vous ferai observer que c'est juste le respect de la loi.
Jean-Louis Borloo, il y a un auditeur ce matin qui a appelé, qui habite dans un quartier de banlieue dans l'est de la France. Il appelait Julien Cellier sur RTL les petits matins, qui lui a posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut dans votre quartier ? Tous ses copains étaient en prison pour trafic d'héroïne. C'est ce qu'il nous expliquait. Il aurait dit une seule chose, l'emploi. Bon, vous vous dites aussi, c'est la mère des batailles.
Bien sûr.
C'est l'emploi. Pour l'essentiel, ils existent, les dispositifs. Vous vous dites, il faut les amplifier.
Non.
Ah ben si, non. Alors, vous ne dites pas que ça, peut-être.
Non, écoutez, madame. Lorsque je constate que la loi française prévoit 5% d'apprentis, donc de contrats d'apprentissage, dans les entreprises françaises, 5%, c'est beaucoup moins qu'en Allemagne.
C'est beaucoup moins.
Voilà, c'est juste pas respecté. Si on respectait ça simplement, ce qui est bien pour les entreprises, c'est elles qui ont les capacités humaines d'accueillir.
Alors comment vous leur faites respecter ça ?
Si je peux juste finir une phrase, qui ont les capacités humaines d'accueillir, qui ont ces besoins-là. Si on respectait ça simplement pour les entreprises de plus de 250 salariés, c'est 200 000 demain matin. Or, les entreprises en ont besoin. Les moins de 250 000, c'est 50 000 de plus. Que la fonction publique, les fonctions publiques recrutent 50 000. Mais il suffit je demande le respect de la loi.
Oui.
Et ça peut paraître bizarre.
Mais le fait l'équité, que vous le demandiez, ça va suffire ?
Non mais attendez, c'est pas moi qui décide, que je sache.
Est-ce qu'il faut des contraintes supplémentaires ?
Mais bien entendu, si vous avez lu le texte, je demande que si c'était pas le cas dans 2 ans, le Parlement s'en saisisse. Bon, mais on l'a vu avec les entreprises, ça va se faire, évidemment. Je vois les 120 premières entreprises françaises, extraordinaire, 150 milliards de bénéfices. Je dis bravo, c'est des champions qui se mettent en mouvement un tout petit peu, voilà.
Vous voulez aussi créer une école de leaders. Une espèce d'ENA des banlieues.
Non, voilà, vous voyez ce schéma. Je dis simplement que partout, nous on a un système de recrutement des élites françaises qui est extrêmement formaté, ouais. Qui passe à côté de tas de talents. Imaginez-vous que les grandes universités du monde, elles ont d'autres modes de sélection, qui sont sur la puissance intellectuelle, l'adaptabilité, le travail en équipe, l'ouverture au monde, le leadership. Je propose que la plus grande école française pour l'accès à la fonction publique, soit une école sur un concours aussi strict en pourcentage, simplement sur d'autres capacités. Et dès que vous êtes reçu, bah vous devenez stagiaire de la haute fonction publique, 1 700 €
mais
par
c'est
mois.
Quoi, l'idée ?
Attendez, l'idée, c'est de ne pas passer à côté des grands talents. Notre système est consanguin, il est refermé sur lui-même. Vous trouvez normal cette organisation actuelle ? Donc, cette école, dès qu'ils seront reçus, ils bénéficieront des meilleures formations mondiales.
Parce qu'aujourd'hui, les hauts fonctionnaires ne calculent pas, comme on dit, la banlieue, ils ne la connaissent pas, donc ils ne peuvent pas concevoir des solutions pour ces quartiers.
Non, je dis simplement que...
Ça vienne de chez eux.
Non, mais d'abord, c'est pas une école pour les quartiers, madame. Nous commençons sur ces talents-là et nous l'ouvrons à toute la société française. Je pense qu'on peut avoir, comme partout dans le monde, des sélections différentes. Mais sélections différentes extrêmement strictes, avec ensuite des formations les meilleures. Que ça soit sur les organisations internationales à Bruges et à Bologne, les meilleures en digital, la finance privée HSC, mais pourquoi pas la finance publique à l'ENA. Bref, fertiliser le modèle français.
Vous allez sans doute en reparler tout à l'heure avec Alexis Corbière, toujours sur RTL. Alors, Emmanuel Macron, on ne sait pas encore ce qu'il va retenir de votre rapport. 21-22 mai, c'est ça le discours ? C'est la date qu'on a ? Ça correspond à peu près à l'anniversaire de son installation, l'installation du gouvernement. La question est de savoir ce qu'il va en faire. Avouez que les premières décisions, c'est ce que nous ont dit les maires ici qui ont travaillé avec vous, allaient plutôt à rebours de ce que vous attendez de lui, c'est-à-dire suppression des emplois aidés pour partie, suppression de l'APL, etc. Il n'a pas donné des signes très positifs.
Non, mais attendez, que le début du quinquennat, ça n'a pas été une priorité, imaginez-vous, ça ne m'a pas échappé, c'est-à-dire pour ça que les maires de ces communes-là se sont un peu rebellés, bien que l'air. Ce que je constate simplement, c'est que c'est lui qui a demandé ce travail, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait une proposition, je lui ai répondu une proposition d'embauche. Bon. Il m'a demandé ce travail, ce diagnostic. Il m'a dit, que devons-nous faire pour changer radicalement ? Et comme ce plan, madame, ce n'est pas des idées qui sont sorties un matin de mon chapeau. On l'a construit avec toutes les régions, les départements, les 800 agglomérations, les maires, le patronat, la CFDT, la CGT, FO. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout est prêt. Et je voudrais dire à vos auditeurs, attendez, c'est que toutes les marges de manœuvre existent. Quand on est... Vous vous rendez compte,
toutes
sur l'île
les marges de manœuvre existent.
Financières, elles existent, absolument. L'argent est dans les tuyaux, il est mal utilisé. Je vous donne un exemple. Formation Bruxelles, 30 milliards. Si on commençait juste par l'illettrisme, on est 23e sur 25. Les marges financières...
Je répète, quand vous dites plus de profs, plus de juges, plus de travailleurs sociaux, d'associatifs, d'ailleurs les travailleurs sociaux, vous dites qu'il faut qu'ils soient... ils aient un statut de la fonction publique qu'ils soient valorisés, qu'ils soient plus nombreux.
Je n'ai pas dit ça. Non, je constate qu'il y a, madame, 35 000 travailleurs sociaux qui ont 7 statuts différents, qui doivent monter des dossiers pour justifier leur paye. Ils passent leur temps dans des dossiers. Je dis, débarrassons-les de ça, qu'ils fassent leur travail. Leur travail, c'est auprès des jeunes, auprès des gens qui en ont besoin, c'est dans la rue. Et donc, qu'il y ait une organisation qu'on fasse d'eux, qu'on rehausse leur qualification et leur temps de travail et qu'on en fasse des héros de la République solidaires. Nous en avons besoin. Vous savez, ce qui coûte cher, madame, c'est le gâchis, c'est ces procédures inutiles, ces procédures opaques, c'est toute cette... Vous savez, la croissance française, d'où elle viendra ? En partie des quartiers et des zones délaissées et des villes moyennes. Le dynamisme économique, la croissance de demain, elle sera là.
Vous en parlez tout à l'heure avec Alexis Corbière. Si Emmanuel Macron ne se saisit pas de ses propositions, il passe à côté.
Mais Emmanuel Macron a l'audace pour le faire. D'abord, il avait l'audace de venir me chercher. Excusez-moi. Bon, et peut-être pas déçu du voyage.
Mais il a l'audace. Mais c'est ce que vous nous dites.
Mais attendez, madame, il va le faire et il doit être le président des 15 millions d'oubliés de la République. Voilà.
Il va le faire.
Il a l'audace pour le faire. Tout est prêt.
La passion. Et aussi un fond de colère de Jean-Louis Borloo qui revient tout à l'heure, donc sur RTL. À tout de suite.
Merci à tous les deux. Vous débattrez avec Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Il y a moins de moyens là où il n'y a plus de besoin. Si je dois résumer ce que vient de nous dire Jean-Louis Borloo, c'est l'état d'esprit du diagnostic qui a été fait. À tout de suite.